Chapitre 4. Lueur passagère. Monsieur Tallevin, depuis sa chute de cheval, demeurait, même entre les crises d'insensibilité spasmodique revenant par intervalles, dans un état d'apathie tel qu'il ne semblait pas s'apercevoir de ce qui se passait dans sa chambre. Il était resté si tranquille, les yeux fermés, depuis le matin, que Maggie dit à sa tante Moss de ne pas espérer que son père fît la moindre attention à leur présence. Ils entrèrent très doucement, et Madame Moss s'assit près du chevet, tandis que sa nièce reprenait son ancienne place au bord du lit et posait la main sur celle de son père, sans que cela amenât le moindre changement sur les traits du malade. M. Glegg et Tom étaient entrés aussi, en marchant très légèrement, et cherchaient la clé du vieux coffre dans un trousseau que Tom avait apporté du bureau de son père. Ils réussirent à ouvrir le coffre, qui était en face du pied du lit, et à arrêter le couvercle avec le crochet de fer, sans occasionner beaucoup de bruit. « Voilà une boîte de fer blanc, » dit M. Glegg à voix basse. « Il doit probablement y avoir enfermé une aussi petite chose qu'un billet. »« Prenez-la, Tom, mais je prendrai aussi ses actes. Ce sont ceux de la maison et du moulin, je suppose, et je verrai ce qu'il y a dedans. » M. Glegg avait retiré les parchemins et s'était heureusement un peu écarté lorsque le crochet de fer céda et le lourd cercle retomba avec retentissement. Peut-être y eut-il dans ce bruit, pour l'homme alité, quelque chose de plus que le simple effet d'une bruyante commotion, car il détruisit soudain et momentanément l'insensibilité de la paralysie. Le coffre avait appartenu à son père et à son grand-père. C'était toujours une affaire presque solennelle que de le visiter. Tous les sons connus depuis longtemps, même celui d'une simple fermeture de fenêtre ou d'un loquet de porte, ont une sorte de voix que nous reconnaissons. Une voix qui pénètre et réveille, quand elle a eu l'habitude de faire vibrer des fibres intimes. Dans cet instant, où tous les yeux étaient fixés sur lui, M. Tallevin se souleva brusquement et regarda d'un air parfaitement lucide le coffre, les parchemins que tenait M. Glegg et Tom qui avait en main la boîte de fer blanc. « Que voulez-vous faire de ces papiers ? » dit-il de son ton ordinaire, de brusque interrogation quand il était irrité. « Viens ici, Tom. Que fais-tu là en fouillant dans mon coffre ?» Tom obéit avec un léger tremblement. C'était la première fois que son père le reconnaissait. Mais au lieu de lui rien dire, le malade continua à regarder avec l'air d'un soupçon croissant M. Glegg et les parchemins. « Qu'est-il donc arrivé ? » dit-il d'un ton d'aigreur. « Pourquoi touchez-vous à mes actes ? Est-ce que Wakeham s'empare de tout ? Pourquoi ne me dites-vous pas ce que vous faisiez ? » ajouta-t-il avec impatience, comme M. Glegg s'avançait vers le pied du lit pour répondre. « Non, non, ami Tallevin, » dit M. Glegg d'une voix conciliante. « Personne ne s'est encore emparé de rien. Nous sommes seulement venus pour voir ce qu'il y avait dans le coffre. Vous avez été malade, vous savez, et nous avons dû nous occuper un peu des choses. Mais espérons que vous serez bientôt assez bien pour vous occuper de tout vous-même. » M. Tallevin regarda autour de lui avec connaissance Tom, M. Glegg et Maggie. Puis soudain, paraissant s'apercevoir qu'il y avait quelqu'un d'assis à côté de lui vers la tête du lit, il se retourna brusquement et vit sa sœur. « Eh, Gritty, » dit-il d'un ton moitié triste et moitié satisfait, dont il avait l'habitude de lui parler. « Comment, tu es là ? Comment as-tu pu quitter les enfants ?»« Oh, frère, » dit la bonne Madame Moss, trop emportée par ses sentiments pour être prudente, « je rends grâce de ce que je suis venu maintenant pour te retrouver toi-même. » « Je croyais que tu ne reconnaîtrais plus aucun de nous. »« Comment ? Est-ce que j'ai eu une attaque ?» dit M. Tallevin avec inquiétude, en regardant M. Glegg. « Une chute de cheval qui vous a un peu ébranlé, voilà tout, je pense, » dit M. Glegg. « Mais espérons que vous en serez bientôt remis. » M. Tallevin abaissa les yeux et resta dans le silence 2 ou 3 minutes. Une nouvelle ombre s'étendit sur son visage. Il regarda d'abord Maggie et lui dit à voix plus basse, « Tu as la lettre, alors, ma petite ?»« Oui, père, » dit-elle, en l'embrassant de tout son cœur. Elle sentait comme si son père lui était revenu d'entre les morts et comme si son vif désir de lui montrer combien elle l'avait toujours aimé pouvait être rempli. « Où est ta mère ? » dit-il, si préoccupé qu'il reçut ce baiser sans rien lui témoigner. « Elle est en bas avec mes tantes, père. Dois-je aller la chercher ?»« Eh, pauvre Bessie !» Et ses yeux se tournèrent vers Tom, comme Maggie quittait la chambre. « Tu auras à prendre soin de toutes les deux si je meurs, tu sais, Tom. Vous serez dans une position difficile, je m'en doute. mais vous verrez à tout payer. Et rappelle-toi, il y a 50 livres à Luke que j'ai mises dans l'affaire. Il me les a remises par petites parties, et il n'a aucun écrit à montrer pour cela. Tu dois le payer en premier lieu. » L'oncle Glegg secoua involontairement la tête et parut plus inquiet que jamais. Mais Tom dit avec fermeté, « Oui, père. Et n'avez-vous pas un billet de mon oncle Moss pour 300 livres? Nous sommes venus pour le chercher. Que désirez-vous qu'on en fasse, père ?»« Ah, je suis bien aise que tu aies pensé à cela, mon garçon. J'ai toujours eu l'intention d'être facile pour cet argent, à cause de ta tante. Il ne faut pas t'inquiéter de perdre cette somme s'ils ne peuvent pas payer. Et il est probable qu'ils ne le pourront pas. Le billet est dans cette boîte, fais-y attention. J'ai toujours voulu être bon pour toi, Gritty, dit M. Taleva en se tournant vers sa sœur. Mais tu sais que tu m'avais fâché en voulant prendre Moss. » En ce moment, Maggie rentra avec sa mère, qui arriva très agitée par la nouvelle que son mari était tout à fait redevenu lui-même. « Eh bien, Bessie, dit-il comme elle l'embrassait, il faut me pardonner si tu es dans une situation pire que tu ne t'y étais jamais attendue. Mais c'est la faute de la loi. Ce n'est point la mienne, ajouta-t-il avec colère. C'est la faute des coquins. Tom, fais attention à ceci. Si tu en as jamais l'occasion, fais que Wakeham le paye. Si tu ne le fais pas, tu n'es qu'un bon à rien de fils. Tu pourrais le fustiger, mais il mettrait la loi contre toi. La loi est faite pour protéger les coquins. » M. Taleva commençait à être excité, et une rougeur alarmante couvrait sa figure. M. Glegg voulait dire quelques mots pour le calmer, mais il fut prévenu par le malade, qui s'adressa de nouveau à sa femme. « On fera un arrangement pour tout payer, Bessie, dit-il, et pour vous laisser pourtant votre mobilier. Et vos sœurs feront quelque chose pour vous. Puis Tom grandira. Je lui ai donné de l'éducation, et il y a la petite qui se mariera. Mais c'est une triste histoire. » L'effet bienfaisant de la forte secousse était épuisé, et après ces dernières paroles, le pauvre homme retomba raide et insensible. Quoique ce ne fût qu'une répétition de ce qui avait eu lieu précédemment, tous ceux qui étaient présents en furent frappés comme de la mort, non seulement par le contraste avec ce retour complet à la vie, mais parce que ces paroles avaient tout rapport à la possibilité de sa fin prochaine. Mais pour le pauvre Taleva, la mort ne devait pas être brusque. Ce devait être une lente descente sous des ombres toujours plus épaisses. M. Turnbull fut appelé, mais lorsqu'il apprit ce qui s'était passé, il dit que ce retour complet à l'existence, quoique momentané, était un signe de bon augure, prouvant qu'il n'y avait aucune lésion assez grave pour empêcher une guérison radicale. Parmi les fils du passé que son intelligence avait renoués, l'infortuné avait omis le billet de vente. L'éclair de mémoire avait seulement porté sur quelques idées saillantes, et il retomba dans l'insensibilité, ignorant la moitié de son humiliation. Mais Tom avait l'esprit fixé sur deux points. Le billet de l'oncle Moss devait être détruit, et l'argent de Luke remboursé. S'il n'y avait pas d'autre moyen, il le ferait avec son propre argent et celui de Maggie, placé à la caisse d'épargne. Il y avait certains sujets, vous voyez, sur lesquels Tom avait l'intelligence plus ouverte que sur les études classiques ou les démonstrations mathématiques.